Voix des Arts, présentée par Christine Darboux. Bonjour à tous. Alors, à la suite des femmes sculptrices du 19e siècle, nous restons encore en Amérique où le vent de liberté, je vous l'ai dit, soufflait assez fort pour qu'un nombre non négligeable d'Américaines prennent leur envol et laissent ainsi à la postérité dans de nombreux lieux publics en Amérique, mais aussi en Europe, le fruit de leur travail. Alors aujourd'hui, je vous présente encore l'une de ces sculptrices qui a laissé preuve de son talent, notamment dans des parcs, sur des places ou des lieux publics. Il s'agit de Anna Vaughan Yat Huctington, née en 1876. Alors celle-ci me touche un peu plus parce qu'elle a souvent réalisé des chevaux, mon animal préféré en sculpture, et contrairement à moi, elle a fait du monumental. Aussi, nous pouvons rencontrer ces fougueux animaux qui s'ébattent ou se battent dans le parc appelé le Brook Green Gardens en Caroline du Sud, aux États-Unis. Parc dans lequel vous trouverez même un Don Quichotte qu'elle a également réalisé. Et de ces pièces, on en trouve un peu partout en Europe. Ce sera par exemple une Jeanne d'Arc au Québec. Alors elle aura surtout réalisé des sculptures animalières, des félins, des chiens, des ours, avec la caractéristique suivante, c'est que ces pièces sont bien vivantes et expressives, pièces sur lesquelles on peut également vérifier concrètement la qualité de ses connaissances anatomiques. Alors je reconnais que ces femmes m'épatent à me sentir bien petite à côté, même si des dispositions ont été repérées et validées dans mon parcours. Cependant, même si mes moyens de développement sont restés insignifiants par rapport aux leurs, et Dieu sait qu'elles ont elles aussi rencontré des obstacles pour parvenir à s'exprimer, le résultat est là puisqu'elles ont réussi à les dépasser. Alors, par comparaison d'une époque à l'autre, il faut comprendre que notre époque a changé la donne, que nos dictats sociaux sont différents, que les codes et les normes aussi, et cela a une incidence également sur les problèmes qui en découlent et qui peuvent affecter maintenant, indépendamment du sexe, tout artiste qui se trouverait hors mode ou hors système marketing spéculatif ou autre, ou en but à des systèmes administratifs déstructurants, pour ne pas dire plus. En bref, les dispositions, voire le talent ou même la vocation ne sont pas automatiquement des critères d'intégration dans la sphère artistique actuelle qui sait exclure de son champ nombre de ceux qui suivent leur cheminement personnel, même s'il est singulier et pertinent socialement. Et ces artistes développent souvent en solo, avec leur propre force, leur vie artistique s'ils le peuvent. Mais je crois que j'avais parlé de la condition de l'artiste déjà à notre époque dans des émissions précédentes. Alors pour en revenir au 19e siècle et à ses dictats, je note ce que je suis encore capable d'apprécier et même d'envier, c'est la qualité et l'exigence de l'enseignement et du travail qui est demandé déjà avant de prétendre être un sculpteur. Alors il est clair que posséder un goût et des dispositions ne suffisait pas à cette époque. Le travail restait une valeur, où il fallait maîtriser parfaitement différentes techniques, ce qui ne pouvait se faire qu'au prix d'heures de travail et d'un apprentissage long, sérieux et méticuleux, par exemple en dessin ou en observation de modèles, en disséquant les anatomies, en maniant des outils, des matériaux divers, etc. Et ses élèves, et qu'ils soient hommes ou femmes, se pliaient à cette discipline et pouvaient compter également sur des professeurs qui maîtrisaient les techniques et étaient donc à la hauteur de leur mission. Alors c'était une époque où l'artiste était encore proche de l'artisan pour que le savoir-faire soit une partie non négligeable de l'œuvre qui revêtait un sens sans nécessité d'explications particulières et peu importe l'adhésion de goût qui lui reste toujours personnelle. Il suffisait de voir l'œuvre pour comprendre le travail et les efforts, souvent de dépassement de soi. et même une épure, hein, une stylisation représentative d'une certaine modernité, voulant exprimer une sensation, une émotion à partager, s'appuyer d'autant plus sur une base solide. Et c'est encore le cas maintenant pour certains de ces sculpteurs rencontrés sur mon chemin, mais ils ne se retrouvent pas forcément sur le devant de la scène artistique actuelle. Bon, je ne suis pas sûre de m'être bien fait comprendre. Je regarde Anthony. Non, ce n'est pas Anthony, je me trompe. Thibaut, pour voir s'il m'écoute. Bon, je vais cesser mes élucubrations, continuer avec nos sculptrices américaines. J'en ai encore quelques-unes à vous présenter. Alors, j'ai rencontré une Anna Coleman-Watts-Ladd, née en 1878, qui, elle, s'est distinguée pendant la Première Guerre mondiale en fabriquant des masques pour les soldats défigurés. Alors, elle est née aux États-Unis, mais a étudié la sculpture en Europe. À l'âge de 25 ans, elle épouse un médecin, avec qui elle s'installe à Boston, met une fille au monde et, en parallèle, continue à étudier la sculpture. Alors, ce qu'elle produit est en lien avec le monde mythologique, l'imaginaire, et elle réalise également des portraits et des bustes. Et on peut voir l'une de ses œuvres, Triton Babies, qu'elle a présentée à l'exposition universelle de San Francisco en 1915, exposée maintenant dans une fontaine du Boston Public Garden. Alors, outre son travail de sculpteur, elle écrivait également romans et pièces de théâtre qui, elles, n'ont pas été jouées. Et lorsque la première guerre 14-18 du XXe siècle éclate et fait les ravages que vous savez, aussi bien dans les âmes que sur les corps, alors est-ce la promiscuité avec le milieu médical et un mari médecin? Le fait est qu'elle part avec la Croix-Rouge américaine en France et sur place, sans doute confrontée aux horreurs de la guerre, elle a l'idée de faire comme un autre sculpteur nommé Francis Derwentwood, qui lui se trouve à Londres, c'est de réaliser des masques pour les soldats défigurés. Alors elle apprend les techniques sous ses directives, ensuite elle ouvre un studio en France où elle reçoit bientôt les patients. Et à l'aide de photos, elle va s'appliquer à recomposer le visage initial des soldats défigurés. Et il est dit qu'elle cherchait à offrir à ses soldats, outre ses services de technicienne plastique, la douceur qui leur manquait pendant ces années si cruelles. Aussi les recevait-elle dans un cadre agréable et fleuri, avec des boissons chaudes et réconfortantes, comme du thé, du chocolat, etc. Bref, l'accueil qui leur était réservé devait être chaleureux et convivial. Alors, je trouve que c'est une jolie démarche, un hommage attentionné à ces hommes qui ont souffert. Alors, il est dit encore, ce que j'ai lu en essayant de croiser mes informations, qu'elle reçut la récompense de son travail dans les témoignages que lui ont adressés ses soldats, car grâce à ses interventions, ils ont pu reprendre une vie quasi normale, retrouver leur famille sans les choquer, et même, pour certains, épouser la femme qu'ils aimaient. Et faute de subvention, par la suite, le studio a été fermé en 1919. Alors, suite à cette expérience, j'ai découvert qu'une autre artiste, sculptrice française, aurait participé, elle aussi, avec Anne Ladd, à la confection de ces masques réparateurs. Et il s'agit de Jeanne Pouplet. Alors, j'espère que ce nom résonne dans vos oreilles, sinon que vous dire à part d'aller faire un petit tour du côté, non pas de chez Swann, mais du musée d'art et d'archéologie de Périgueux, où vous pourrez vous rendre compte par vous-même, via ses œuvres exposées, de son travail bien sûr, mais qu'il s'agit en outre d'une périgourdine, née en 1874 et qui a rayonné en tant que sculptrice en dehors même de sa région. Alors, Jeanne Pouplet avait commencé ses études aux Beaux-Arts de Bordeaux. Elle les a poursuivies à la célèbre Académie Julian de Paris. Elle est passée par les ateliers des sculpteurs Auguste Rodin et Antoine Bourdel. S'est frottée également aux notoriétés artistiques de l'époque, des sculpteurs fréquentant ce qui a été appelé la bande à Schnegg, Lucien et Gaston Schnegg étant eux-mêmes sculpteurs. Elle a fréquenté des artistes américains ainsi que les féministes anglo-saxonnes. Bref, tout un périple et parcours artistique de femme, de sculptrice, pour parvenir à être ce qu'elle est, en laissant derrière elle une belle production, plutôt moderne, parce que ses créations sont simplifiées et épurées. Et malgré tout son parcours, elle est quand même tombée dans l'oubli quelques décennies. Mais il est dit qu'elle a soutenu entre-temps deux jeunes artistes émergents, dont le sculpteur Aristide Maillol. Et ce sont des rétrospectives, notamment en 2006, qui nous ont permis de redécouvrir cet artiste. Et je citerai les lieux où encore ses œuvres sont exposées, notamment en France à Paris au musée d'Orsay, et à Roubaix dans ce lieu très particulier, à voir absolument, ce que je devrais faire aussi, nommé la piscine. Et bien évidemment, je le répète encore, elle est exposée au musée d'art et d'archéologie de Périgueux, qui est un bâtiment bien en vue, situé sur les allées Tourny, pour mieux préciser. Sinon, ses œuvres sont aussi exposées à l'étranger, notamment aux USA. Et voilà pour Jeanne Pouplet, la Périgourdine. Alors, je terminerai avec l'américaine Malvina Hoffman, née en 1885, fin du 19e siècle toujours. Elle était fille d'un pianiste renommé Richard Hoffman, donc c'était une fille d'artiste. D'après ce que j'ai lu, elle a étudié la peinture, la sculpture et serait même passée par l'atelier du sculpteur français Auguste Rodin, elle aussi comme d'autres. Alors elle s'est distinguée surtout grâce à une commande d'État, car elle a été sollicitée pour réaliser 110 bronzes à l'occasion d'une exposition qui s'est tenue à Chicago et intitulée « Les races de l'humanité ». Elle a donc illustré cette exposition avec son travail de sculpteur. Mais la liste des femmes sculptrices ne s'arrête pas là encore. Il y en a d'autres que je présenterai, j'en oublierai aussi peut-être, j'en suis désolée. Mais nous allons faire une petite pause musicale en compagnie d'une compositrice viennoise et donc autrichienne nommée Alma Mahler, née Schindler, car elle est la fille du peintre viennois Jakob Schindler. Elle est née fin du 19e siècle, en 1879. Elle devient Mahler par son mariage avec le musicien bien connu Gustav Mahler et le restera jusqu'au décès de ce dernier. Ensuite, elle convolera encore deux fois, toujours avec des artistes qui deviendront également célèbres et auxquels elle survivra. Et l'un sera l'écrivain Franz Werfer et l'autre l'architecte Walter Gropius. Entre-temps, elle aura passé entre les bras du peintre Oskar Kokoschka, qui l'immortalisera sur ses toiles et sur lequel elle laissera une empreinte brûlante et donc indélébile à tout jamais, car il est dit de cette belle plante aux formes généreuses, passant facilement pour une messaline, qu'elle était croqueuse d'amants, et non pas de diamants, et dotée d'une séduction apte à tourner bien des têtes masculines. Et Françoise Giroud, l'une de nos femmes politiques du XXe siècle, a écrit sa biographie romancée, que j'ai lue, intitulée « Alma Mahler ou l'art d'être aimé ». Alors Françoise Giroud met l'accent sur une personnalité complexe, un être parfois capricieux, tiraillé, frustré d'avoir été obligé par l'environnement d'étouffer sa vocation de musicienne et qui, à la place laissée vacante par ce vide artistique, a su l'occuper par l'art que les hommes ont accordé à sa féminité, c'est-à-dire celui de les entortiller pour les attacher à sa cause. On va dire ça comme ça. Elle sera d'ailleurs surnommée la veuve des quatre arts en raison de ses liaisons avec quatre artistes majeurs de la sphère artistique de l'époque, à savoir le musicien, l'écrivain, le peintre et l'architecte, dont les noms ont été cités plus haut. À chaque fois, elle mettra au monde les enfants de ses unions et vivra avec ses compagnons le drame qu'en constitue la perte de certains d'entre eux. Mais la vie continuera son cours avec Alma dans son sillage, qui s'installera aux États-Unis pour fuir le nazisme et finira sa vie là-bas à l'âge assez avancé de 85 ans. Alors qu'en est-il de sa vocation de musicienne ? Déjà petite, elle côtoie les relations et amis artistiques de son père, qui, comme je vous l'ai dit, est peintre, elle grandira et évoluera dans l'atmosphère artistique bouillonnante de la Vienne de cette fin du XIXe siècle, début du XXe. Enfant, elle apprendra le piano et sera considérée par la suite comme une excellente pianiste, et elle composera dès son jeune âge et produira une œuvre assez conséquente, mais ignorée, et ce sera surtout des leaders, sorte de romance chantée selon la mode allemande. Alors, elle aurait manifesté l'ambition de composer un opéra, mais son mariage avec un musicien lui ôtera toute possibilité d'expression, car il est dit que Gustav Mahler lui aurait interdit de composer, justifiant le fait qu'il lui fallait auprès de lui une épouse dévouée qui l'épargne des contingences du quotidien, afin qu'il puisse composer, travailler et gagner ainsi aussi les moyens de faire vivre son ménage, car il était en outre chef d'orchestre. Et il est même dit qu'il se serait approprié certaines de ses compositions. Enfin, quoi qu'il en soit, Alma accepte de mettre sa vie personnelle artistique en sourdine au profit de sa vie d'épouse et de mère, ce qui ne l'empêchera pas d'évoluer avec un certain panache dans la sphère artistique, en perturbant au passage les esprits de la gent masculine. Ceci dit, elle croyait dans les talents de ses maris, et concernant Gustav Mahler, elle aurait dit admirative « C'est l'homme le plus noble et le plus pur ». Alors après cette belle déclaration, nous allons écouter l'un de ses fameux leads. Aussi, place maintenant à Alma Mahler, la compositrice. Alors, je vous ai dit que Alma et Gustav Mahler ont eu des enfants, et en effet, deux filles naîtront de leur union. L'aînée décédera des suites du scarlatine à l'âge de 5 ans. Ce drame affectera jusqu'à perturber l'entente au sein du couple. Apparemment, Madame se consolera dans les bras d'un amant que Monsieur acceptera, le divorce étant exclu. Ceci dit, pour résumer sommairement la situation. Et 3 ans après ce drame, Gustave décédera à son tour de maladie. Et son autre fille, Anna, née en 1904, deviendra sculptrice. Alors elle baigne forcément dans le milieu artistique. Et plutôt que d'embrasser une carrière de musicienne, elle préférera tomber amoureuse des musiciens, bon pourquoi pas, qu'elle épousera et dont elle divorcera aussi vite. Et à 20 ans, elle aura divorcé déjà 2 fois. Mais ne s'arrêtera pas là, et j'allais dire en si bon chemin, je me retiens, est-ce un si bon chemin à vous de voir? En tout cas, elle aura convolé 5 fois. Et 2 filles naîtront de ses mariages, et là je vois quelques ressemblances avec sa maman, sauf qu'elle poursuivra sa carrière artistique. Alors de ce point de vue justement, je vois l'influence du grand-père maternel, car elle s'orientera vers la peinture, puis la sculpture retiendra son intérêt. Elle l'étudiera et celle-ci deviendra son moyen d'expression privilégié. Et elle recevra même, pour son travail de sculpteur accompli, le Grand Prix de l'Exposition universelle de Paris en 1937. Alors elle aura produit des bustes en bronze, surtout de musiciens, même si elle travaille avec talent la taille de pierre, car elle réalise également des sculptures imposantes en pierre, hautes de plusieurs mètres. Voilà pour les personnalités féminines de la famille Malheur. Alors revenons à nos sculptrices françaises. Parmi elles, l'une nommée Lucienne Heuvelmans, née en 1881, sculptrice mais aussi peintre et illustratrice, était en outre fille d'un artisan ébéniste d'art et dessinateur, ce qui peut aussi influencer la vocation. Celle-ci sera admise à l'Académie des arts de la Villa Médicis à Rome, puisque les concours ont été ouverts aux femmes depuis 1903, et elle sera la première femme d'un premier Grand Prix de Rome pour sa sculpture intitulée « Au reste endormi ». Elle exercera une carrière de professeur de dessin à Paris, exposera dans différents salons, comme le Salon des artistes français, recevra également des commandes, notamment de la manufacture de Sèvres, située dans les environs de Paris, et finira sa vie en Bretagne en se spécialisant en sculpture, dans la mythologie et le religieux. Et elle laissera, elle aussi, une production conséquente. Or, tant d'autres femmes, illustres inconnues, traverseront l'époque, sans laisser d'autres traces que leurs œuvres, à découvrir parfois dans des lieux publics. Mais je suis sûre que bien peu de nos contemporains sont capables de penser qu'une femme se cache derrière une œuvre sculptée, un peu imposante et livrée aux yeux de tous. Or, si je dois encore nommer de ces artistes, je citerai Marguerite Gagneur, de son nom d'artiste Marguerite Siamour, née en 1857, dont le pseudonyme est la contraction du nom du village de son enfance, Siam, et du mot amour, ce qui est plutôt joli. Elle sera amie du peintre Alphonse Muchat, prendra des engagements politiques et féministes, et elle réalisera des bustes, des hauts-reliefs, sculptures en bronze ou en marbre, dont la plupart est encore située dans son Jura natal. Une autre Française, également écrivaine mais aussi photographe et exploratrice, nommée Marie Gallot, née en 1867, réalisera, elle, surtout des bustes. Et elle fera, comme Alexandra David-Nel, la grande voyageuse spécialiste des cultures d'Asie orientale, elle voyagera habillée en homme, par commodité et sécurité, et traversera ainsi l'Extrême-Orient ou le Tibet. Et à son retour, elle publiera des livres en lien avec ses voyages, et ce sera par exemple Une vie de Bouddha ou des ouvrages sur le bouddhisme et l'hindouisme. Alors une chimiste s'adonnera aussi à la sculpture. Elle se nomme Anne de Chardonnay, elle est née en 1869. Elle réalisera aussi quelques bustes, marbres de statues qui sont maintenant au musée des Beaux-Arts de Besançon, et aura reçu entre-temps, pour ses activités de chimiste, un brevet d'invention concernant la récupération des vapeurs d'éther et d'alcool contenues dans l'air. Découverte qui sera ultérieurement utile pour la fabrication de soie artificielle et de celluloïdes. Comme quoi, certaines polyvalentes influencent également les progrès scientifiques et industriels du monde moderne. Et ça, il faut le savoir. Alors, ce sont des femmes qu'il faut vraiment aller chercher pour les trouver. Et moi-même, je ne les connaissais pas pour la plupart. Et pourtant, leur parcours est riche et intéressant. Alors, d'autres encore, comme Charlotte Mongineau, fille du peintre et graveur Charles Mongineau, que son père admirait pour son talent et qui, en plus de peinture, a laissé bien des œuvres pertinentes en sculpture, notamment tirées de son imagination. Ce sont des personnages en bronze et aussi en marbre. Ou alors Janitas, la fille du sculpteur Adolphitas, qui recevra notamment commande d'État pour la réalisation d'un buste d'une danseuse en faveur de l'Opéra de Paris et qui sera également récompensée à l'étranger, les États-Unis, l'Égypte. Et en hommage à son père, elle réalisera un monument funéraire au cimetière du Père-Lachaise. Alors, c'est aussi Anne Quinco, née en 1890, fille d'une sculptrice nommée Thérèse Caillot, que sa mère va initier. Elle rentrera ensuite aux Beaux-Arts de Paris, se formera également auprès de Rodin. Mais l'aventure l'attire, les pays lointains, l'Afrique, et son art en sera d'ailleurs influencé. Et à son retour, elle recevra commande, notamment d'État, de sculptures monumentales, et à voir d'ailleurs l'un de ses bas-reliefs sur le thème de l'Indochine, ornant le palais de Tokyo de Paris. Alors malgré son parcours, elle aussi mettra du temps à se faire connaître pour son talent. Alors ici, je vous présente des Françaises, et encore la liste n'est pas exhaustive. Tant de femmes ont choisi ce médium d'expression qu'est la sculpture, comme France-Emma Raphaël, ou Marie-Laure Coutant-Montorgueil, ou Marguerite-Jeanne Charpentier, pour ne citer que celle-ci, ou encore Marguerite de Bézère-Graty, qui, malgré sa naissance fin 19e siècle, en 1881, décédera en 1977, à l'âge avancé de 96 ans. Comme quoi, il semblerait que sa carrière de sculpteur fut pour elle une cure de jouvence. Alors, il est possible aussi qu'elle ait créé dans de bonnes conditions. En tout cas, sa carrière semble s'être bien déroulée. Elle a réalisé nombre d'objets d'une élégante facture, représentatifs de cette forme d'art nommée Art déco, qui couvrit la période du début du XXe siècle, parmi lesquels l'on distingue des vases, des bustes, des figures animales. Alors, il faut dire au crédit de cette dame qu'elle fut Grand Prix des Arts décoratifs en 1925. Et elle sera récompensée à maintes reprises dans les prestigieux salons dans lesquels elle exposera. Et au même titre que Jeanne Pouplet, elle fera partie de ce groupe représentant les femmes artistes modernes des années 30. Bon, du XXe siècle, bien sûr. Alors, saviez-vous que la grande comédienne Sarah Bernhardt, elle aussi, s'adonner à la sculpture, comme quoi il s'agissait d'une discipline très appréciée de ces dames, quelles que soient leurs autres activités professionnelles ou occupationnelles. Alors, ce sont des Françaises, hein, mais pas uniquement, mais nous verrons cela les prochaines fois, car il est temps de nous quitter. Je rappelle que les horaires de la Voix des Arts ont changé depuis ce mois d'octobre, à part le lundi 13h30. Les autres émissions sont programmées les jeudis à 17h30 et les samedis à 11h30. Et le même numéro d'émission repasse pendant 2 semaines, si bien que si vous l'avez loupé, ben vous pouvez l'entendre au jour et horaire que je viens de vous indiquer sur notre radio libre en Périgord au 102.3. Si vous êtes localisé à Périgueux et alentour, sinon en direct sur Internet, à voir également en podcast sur radiolibreenperigord@gmail.com, Radio Libre étant au pluriel. Sur ce, merci de votre écoute et à bientôt pour la suite des femmes artistes au cours du temps. La Voix des Arts, présentée par Christine Darboux.